Très bien, donc vous allez ouvrir votre Bible dans Colossiens, et on va parler un peu de, voilà, on va voir un personnage aujourd'hui, mais voilà, je intitulé cela un peu dans un thème général, lumière sur les ouvriers de l'ombre. Lumière sur les ouvriers de l'ombre. Lorsque vous, ça vous est déjà arrivé de regarder des films, je suis certain. Hein? Bon, je sais pas maintenant comment ça se passe, mais je me souviens avant quand on regardait un film, il y avait les acteurs principaux qui jouaient et tout, et puis voilà, on était focalisé sur ces personnes, les acteurs de premier rang, il y avait les acteurs de second rang. Et puis, on s'identifiait volontiers aux héros, hein. D'accord? Surtout si on était jeune garçon, s'il était grand, fort, musclé, voilà, on se sentait, on arrivait vite à s'identifier. Et c'est sur ces personnes que les projecteurs étaient braqués. Mais, je sais pas si vous avez fait attention, en fin de film, en général, il y a tout un défilé avec les noms des personnes. Ça commence avec les noms des acteurs. D'accord? Dans le rôle de, c'est pas moi, hein, le policier, tel acteur, etc. Et puis ensuite, il y a toute une liste de noms. Vous avez jamais fait attention? Alors, il y a quoi? Il y a les accessoiristes, il y a les preneurs de son, les maquilleuses, les habilleurs, etc. Qui c'est qui a déjà lu cette liste-là? Tous les noms. Personne ne lit ça. C'est vrai ou pas?
Ça passe trop vite.
Ça passe trop vite. Ça passe vite aussi, c'est vrai. Donc, ça veut dire que même ceux qui le projettent n'étaient pas très intéressés à nous le montrer. Et puis, je pense que même si ça allait lentement, hein, on se serait déjà levé et on est déjà passé à autre chose. Ou alors, on a déjà zappé pour regarder autre chose, n'est-ce pas? Et personne ne lit ces noms. Et pourtant, ce sont les... sans lumière, il n'y a pas de scène, on peut pas voir, on peut rien faire, d'accord? Et c'est souvent comme ça, hein. Je me souviens avoir visité une fois. Bon, dernièrement, j'ai visité un étudiant qui était en stage à l'hôpital, mais j'ai pas visité l'hôpital en lui-même, mais les sous-sols où on gère l'électricité. Et c'est une usine. Hein, c'est vraiment très sophistiqué parce que en haut, il y a le chirurgien qui opère, enfin en haut, hein, il n'y a pas que ça, mais on peut imaginer dans le sommet, hein, et imaginer une panne de courant pendant que le chirurgien opère un malade. Ça, c'est hors de question. Donc, il faut des groupes de secours, il faut des gens qui contrôlent, qui font des tests tout le temps pour voir que ça marche. Une fois par mois, ils font des essais comme ça sur l'hôpital pour voir est-ce qu'on bascule de l'un à l'autre s'il y a un problème, etc. On voit pas beaucoup ces personnes, mais on parle du chirurgien qui a fait X bac plus, je sais plus combien, hein, qui travaille, qui est là minutieusement, on dit c'est un super chirurgien, mais derrière, en dessous, il y a toute une armada de personnes qui travaillent pour que ce chirurgien puisse être dans de bonnes conditions. Ce sont des ouvriers de l'ombre, hein, qui sont là. Et on peut multiplier les exemples que l'on a comme cela de personnes qui travaillent dans l'ombre. Mais il arrive que dans l'église aussi, il y ait des ouvriers de l'ombre, plus ou moins visibles parfois. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent aussi dans l'église de Christ. Certaines personnes ont un ministère de premier plan, sont visibles, parfois très visibles, et puis d'autres plus ou moins visibles, et puis d'autres ont un ministère qui est quasiment pas visible, hein. Et quand on lit les Écritures, il y a des noms qui nous sont familiers, n'est-ce pas? Donnez-moi des noms qui vous sont familiers.
Paul, Pierre,
d'accord? David, hein, Moïse, d'accord? Jacques, Jean, surtout ceux qui ont les noms avec dans les livres, qui ont écrit des livres de la Bible. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt dans l'ombre, hein. Est-ce que vous en avez quelques-uns?
Épaphras,
quoi qu'on en dise quand même pas mal, hein, mais c'est vrai, un peu de l'ombre. Aristobule, oui. Ah, vous voyez, hein, finalement, vous avez... la liste a défilé trop vite. Hein, c'est comme au cinéma, hein, c'est là, on n'a pas, on passe pas de temps sur ces personnes, n'est-ce pas? Les femmes qui ont assisté Jésus, voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez dans l'Épître aux Romains, le chapitre 16, la première partie du chapitre, l'apôtre Paul dit saluer, saluer, saluer. Il donne une litanie de noms, hein, on avait appris ça, hein. Beaucoup, beaucoup de noms de personnes. On ne sait même pas à qui ces personnes, à quoi ces personnes correspondent vraiment, mais il dit qu'il donne parfois quelques détails, n'est-ce pas? Eh bien, nous pouvons voir, on va voir dans Colossiens que parfois le Saint-Esprit permet de lever un peu le rideau sur ces personnes qui sont dans l'ombre, et puis pendant un temps les amène un peu à la lumière pour nous montrer que ces personnes aussi sont extrêmement précieuses dans le service de Christ, et qu'il nous faut apprendre à apprécier les unes, celles qui sont à la lumière, comme les autres, celles qui travaillent dans l'ombre, prier pour les unes comme pour les autres. Alors, aujourd'hui, on parlera d'un homme qui s'appelle Tychique. Vous avez entendu parler de Tychique? Oui? Alors, sans ouvrir votre Bible, qui était Tychique? Un compagnon d'œuvre de Paul, d'accord? Un juif? Un grec? D'accord? C'est tout ce que vous savez de lui? Hein? On est passé trop vite sur le... On va regarder dans Colossiens. On va regarder dans Colossiens, chapitre à... Alors, vous avez un petit travail à faire. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de... Je voulais vous faire un petit papier. J'ai pas eu le temps, vraiment, parce que... je suis parti. En fait, on est parti avec Tim dans une réunion pour avec la loi française qui a changé concernant les associations en 1905-1901. Donc c'était avec le préfet du Val d'Oise. Donc ça a duré depuis 3 heures jusqu'à presque 17 heures, quoi. Mais bon, je vous en donnerai des nouvelles après. J'essaie de justifier pourquoi je vous ai pas fait de papier. Hein. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Mais en tout cas, on va regarder. On va regarder plusieurs textes, hein, parce qu'il y a à plusieurs endroits, il est question de Tychique. 5 endroits dans la Bible. Vous voyez, quand même, c'est pas rien. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui sont dites. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, on va lire ces textes. Je vais vous les donner. Prenez votre stylo, votre crayon. Bon, j'avais commencé à préparer un truc comme ça avec les versets et des cases vides. Donc, je vais vous donner c'est pas des longs versets, hein, les passages. Et vous allez les noter et puis vous allez essayer de relever les informations brutes, sans interprétation, les informations brutes qui sont données concernant Tychique. Donc, le premier passage, c'est dans Acte 20. Acte 20 et au verset 4. Rien ne vous empêche de lire un verset avant, un verset après, si vous voulez. Acte 20 au verset 4. Donc notez-le, hein, parce que je vais vous donner toutes les références. Éphésiens 6, verset 21. Éphésiens 6, 21. Après, Colossiens chapitre 4. Alors, 6, 21, et puis vous pouvez garder le verset d'après aussi, je crois. 6, 21, 22. Pareil, Colossiens 4, c'est un verset quasiment parallèle, hein. Versets 7 et 8. 2 Timothée 4, verset 12. Et Tite 3, verset 12. Alors, je redis, hein. Acte 20, verset 4. Éphésiens 6, 21. Colossiens 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 12. Et Tite 3, verset 12. Donc là, ce sont les textes. À côté de chaque texte, vous mettez les informations que nous donne la Bible.
Bien sûr. On y va? Tychique.
Donc, quelles sont les informations brutes que vous avez relevées ici? Donc, dans Acte 20, verset 4, qu'est-ce qu'on apprend?
Il est originaire d'Asie.
D'accord. Ok. Donc, probablement, on pense qu'il était probablement d'Éphèse. Probablement d'Éphèse, hein. D'accord. Donc lui, pas juif, je crois. Il y a autre chose là dans ce verset que vous apprenez? Voilà, hein, il était accompagnateur, il accompagnait Paul, hein. Très bien. Donc là, ils sont en train, il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie sous Pater, et après ils vont, acte 20, vous savez, c'est quand Paul remonte vers Jérusalem un petit peu, hein. Alors, probablement, ils font des escales un peu. Bon, il faut essayer de lire partout pour avoir, pour que les informations se recoupent, mais c'est à peu près à ce moment-là. Éphésiens 6, 21 et 22. Il était informateur, oui, j'ai entendu d'autres choses. Ministre, ça veut dire quoi? Serviteur, hein. D'accord, donc il servait aussi avec Paul, d'accord. Et il était informateur. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Qu'est-ce que dit le texte? Il vous informera. D'autres choses? Oui. Et aussi, il y a quelque chose qui indique qu'il console. Il était un consolateur aussi. Hein, ça se voit. Hein. Un représentant de quelle église? Tu as vu ça? Comment tu as vu? Acte 4? Acte 4? Acte 20, verset 4? Oui. J'ai pas fait attention, mais peut-être, hein, tu as raison, je sais pas. Où est-ce que tu as vu qu'il était? Ah non, il l'accompagnait jusqu'en Asie, c'est ce qu'il faisait, ouais. Ouais. Après, on sait pas s'il était officiellement, ouais. On va voir un peu plus tard des choses concernant, mais Colossiens 4:7, c'est à peu près la même chose qu'Éphésiens 6, vous avez vu, hein. Donc on voit bien le caractère un peu qu'il apporte les informations, hein. On retrouve encore la consolation, je crois, aussi. Donc c'est dit deux fois, hein, donc ça veut dire que c'est quand même une chose importante. Est-ce qu'il y avait autre chose dans Colossiens 4, versets 7, 8 et 9? Il était le compagnon de service dans le Seigneur de Paul, hein, compagnon de service. Donc on apprend ça dans compagnon de service. Ok. Voilà, on fait sa fiche d'identité. Hein. En 2 Timothée 4:12, il a été envoyé à Éphèse. D'accord. Donc il était l'émissaire, comment on va dire ça, hein, l'envoyé, l'apôtre. Le mot, c'est le même mot, hein, des fois, envoyé, apôtre. Hein. Mais c'est qui l'envoie? C'est Paul qui l'envoie. Donc il a été envoyé par Paul à Éphèse. Et puis en Tite 3 verset 12. Ah, il l'envoie, mais il dit quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir et me rejoindre à Nicopolis. Donc on a l'impression qu'il y a un quoi ici? Hein? Un échange, hein. Donc il est envoyé à je sais pas où. Où est-ce qu'il dit? Ah? Non, Tite doit rejoindre Paul à Nicopolis. D'accord? Mais il faudrait regarder où Tite était. J'ai pas regardé. Ok, en tout cas, il y a un échange, hein. À Crète, voilà. Il va là où Tite était et Tite vient rejoindre Paul à Nicopolis. Donc il a une espèce d'échange, hein, de remplacement, on pourrait dire, hein. Il est envoyé en remplaçant quelque part, hein, on pourrait dire à Crète. Pas mal, ok. Donc tout ça, on va essayer de reprendre tout ça et puis de dresser. Je vous propose de dresser deux choses. D'abord le ministère de Tychique et puis deuxièmement le caractère de Tychique, hein, avec les informations qu'on a récolter ici. Parce que si le Saint-Esprit le met là, c'est que bon, il nous dit aussi des choses à travers ce serviteur. D'abord le ministère de Tychique. Si on regarde dans Éphésiens, alors je lis le verset dans Colossiens chapitre 4 verset 7, il dit Tychique, le frère bien-aimé, fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et qu'il vous console et qu'il console vos cœurs. Hein. Donc, et puis aussi dans Éphésiens, il dit, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais. Tichic, le bien-aimé frère et fidèle ministre de notre Seigneur, vous informera de tout. Et puis, je crois qu'il dit, qu'il parle, il dit aussi, je vais le relire, Éphésiens, chapitre 6, verset 22. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Donc, il y a une chose qui est répétée ici et là, c'est quoi? Il y a plusieurs choses, mais une qui va faire, voilà, mais il va aller plutôt consoler. D'accord? Donc, on pourrait dire que il avait un ministère de consolation auprès des églises, puisque l'apôtre Paul dit, je vous l'envoie et il va vous consoler. D'accord? Il dit ça aux Colossiens, il dit ça aussi aux Éphésiens. D'accord? Il vous consolera. Alors, en quoi consiste ce ministère de consolation? C'est quoi la consolation, selon vous? C'est quoi la consolation? Oui, porter de l'encouragement, le réconfort là où il y en a. Mais comment est-ce qu'on console? Avec, parfois, avec des paroles, avec des mots. Mais est-ce que c'est seulement de cette manière-là que l'on console? C'est sûr que le sens de consoler, c'est exhorter, c'est accompagner, c'est aussi aider, être à côté, hein. C'est le même mot qui traduit le Saint-Esprit, parfois le paraclet, celui qui console. Jésus dit, je vous enverrai un consolateur. C'est la même racine, même mot, hein. Donc, quelqu'un qui sera avec vous et qui vous accompagnera, hein. Donc, c'est un petit peu ça. Le consolateur, c'est celui qui est avec, qui marche auprès d'eux et qui encourage, qui exhorte. Mais surtout sur un plan spirituel. D'accord? Il est un consolateur de l'évangile, on pourrait dire. C'est ça que ça veut dire, hein. Si vous regardez dans Colossiens 4, prenez votre Bible dans Colossiens 4, ici. Colossiens chapitre 4. Et on va lire à partir du verset 10. Il y a encore d'autres compagnons qu'on connaît pas beaucoup ici, mais on va lire. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont, et bien c'est ça que je veux souligner, ils sont des nombres des circoncis et les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu et qui ont été pour moi une consolation. Donc ces trois hommes ont été pour Paul une consolation. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont parlé tout le temps? Paul, hein? Pas forcément, peut-être. Ils ont été une consolation par leurs paroles. Mais il dit, qu'est-ce qu'il dit particulièrement d'eux ici? Ils ont fait quoi? Regardez. Ils ont travaillé avec moi pour le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'ils étaient une consolation dans le sens qu'ils étaient investis dans le ministère pour le royaume de Dieu. C'est ça, il voyait qu'ils étaient préoccupés par le royaume de Dieu. Il dit pas, ils ont travaillé contre moi, mais ils ont travaillé avec moi. D'accord? Et donc, il y a cette idée que la consolation, c'est pas non plus simplement le fait de parler ou d'exhorter, voilà, comme ça, mais c'est aussi le fait d'être, de travailler pour le Seigneur, et ça encourage, ça console, hein, Paul, de voir qu'il y a d'autres qui prennent à cœur le ministère, l'œuvre de Christ, et qui travaillent. Donc ça apporte une consolation. Par exemple, l'apôtre Paul parle dans 2 Timothée, regardez, 2 Timothée 1, verset 16, 2 Timothée 1, verset 16, il parle d'un autre compagnon qui s'appelle Onésiphore. Vous connaissez Onésiphore? On avait un chariot, ça s'appelait le chariot pour faire une Bible par foyer, hein. On appelait ça le chariot Onésiphore, hein. Donc Onésiphore, c'était l'apôtre Paul dit que verset 16 de Timothée 1 16 que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore. Il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Donc voilà comment il l'a consolé. Il n'a pas eu honte des chaînes de Paul. Il dit, au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup pressement, avec zèle. Il m'a cherché avec zèle. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. D'accord. Donc, comment est-ce qu'il a été consolé par cet homme? Parce que c'est un homme qui lui a rendu beaucoup de services. C'est un homme qui a montré un zèle pour le trouver quand il était en prison. Imaginez Onésiphore qui arrive à Rome, Paul est en prison et il ne sait pas où le trouver, quoi. Il ne sait pas. Je ne sais pas si c'était en prison de Rome, peut-être il dit à Rome, non, pas, j'ai dit Rome, mais oui, c'est ça, à Rome. Et donc, il ne sait pas, Paul est en prison. Et puis, quand quelqu'un est en prison pour sa foi, il faut qu'on soit même, on soit costaud dans la foi pour aller affronter Néron et les autres en allant visiter un prisonnier de la foi, quoi. Et Paul dit, il n'a pas eu honte de mes chaînes, il m'a cherché, il a frappé, il a cogné par ici, cogné par là, il a demandé jusqu'à ce qu'il me trouve. Hein? Donc, c'était certainement plus difficile de trouver quelqu'un à la prison à cette époque que maintenant où un petit coup de fil, un coup de téléphone, etc. Et c'est fait. Donc il dit, et il m'a consolé, comme ça. C'est quelque chose qui lui a apporté une consolation. La visite et l'empressement avec lequel Onésiphore a montré de la sollicitude. Donc on pourrait dire que Tychique était un ministre de consolation. Il avait un ministère de consolation en ce sens qu'il, certainement qu'il a parlé auprès des autres. Mais il a eu ce genre de sollicitude à l'égard des autres. Il a œuvré auprès de Paul. Il a pris une part importante dans le ministère qui était accompli, même si ça restait dans l'ombre et en retrait. D'accord. Ça c'est pour le ministère de consolation. Un autre ministère qu'on peut voir ici, ça apparaît beaucoup. Il dit, il vous communiquera tout ce qui me concerne. Dans Colossiens, ils vous informeront, en parlant de Tychique et Onésime, de tout ce qui se passe ici, etc. Il dit la même chose aussi dans Éphésiens. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme, qu'est-ce qu'il avait comme ministère ici? Comment on pourrait appeler ça, d'une manière moderne? Oui, journaliste, on pourrait dire, hein? Informateur, assistant. Moi, j'ai mis, oui, tout ça, c'est bon, mais j'ai mis communicant. Je sais pas si c'est bien, hein. Bon, mais peut-être que ce que vous avez dit est mieux, mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'il était un, ou alors on pourrait dire porte-parole, hein, de l'apôtre Paul. Il a informé les autres chrétiens de la situation, mais pas seulement ça, il est allé aussi pour porter des lettres, hein. C'est lui qui a porté probablement les lettres d'Éphèse et les lettres à l'église de Colosse. Donc il était un peu le facteur quelque part. Il était, on a vu tout à l'heure, celui qui apportait peut-être une parole d'exhortation, mais qui encourageait aussi par sa propre attitude et son propre investissement. Et en plus, il donnait des nouvelles de Paul. Paul dit qu'il va vous raconter tout ce qui se passe ici. Donc il avait ce ministère-là, porter des lettres aux églises, mais aussi leur donner des nouvelles de la santé de Paul, probablement, mais aussi des nouvelles de quoi? De son ministère, de son enseignement, de ce qu'il dit, de comment il explique les choses, etc. Hein, donc voilà, on pourrait dire, hein, il avait un ministère de communication. Alors, entre guillemets, on voit ici quand même que Paul était soucieux de faire connaître ce qui le concernait. C'est pas quelqu'un qui dit, moi, j'agis dans l'ombre, je cache, j'ai pas besoin de savoir, je fais mon truc, et puis après. Non! Il veut que les chrétiens sachent comment il est, comment il vit, ce qu'il fait. Il dit, il vous dira tout ce qui me concerne. Nous, on est dans une époque où on a développé des moyens de communication beaucoup plus grands que ce qu'il y avait à l'époque. Et on a tendance à cacher les choses, plus souvent. On communique avec quelques personnes, mais en fait, on cache, on est souvent devant des faits accomplis, hein. D'accord? Oh, on apprend des choses, c'est déjà arrivé à un stade. Pourquoi? Parce que on a pris l'habitude d'être un peu cachetier, d'avoir son petit réseau de personnes à qui on peut dire deux ou trois choses. Mais on n'est pas ouvert ici avec comme Paul qui a ce désir que les chrétiens sache comment ça se passe. Je crois que c'était aux Philippiens. Il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il a cette volonté de, on parle de transparence de nos jours, mais de transparence pure, quoi, hein. Que les gens puissent prier pour lui, qu'ils puissent prier d'autres, mais pour cela, il faut être informé. Et Paul est quelqu'un qui cherchait à s'informer, mais qui aussi informait les autres sur sa propre situation. Il avait même dans son entourage quelqu'un dont le travail était de faciliter cette communication. Il faisait des trajets à pied, en radeau, je sais plus, hein, pour pouvoir aller porter les informations. Donc ça, c'est le deuxième aspect du ministère. Troisième aspect de son ministère, Tite 3, verset 12. On l'a dit rapidement, hein, « Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tichique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. » Donc là, quel est ce ministère qu'il a accompli ici? On pourrait dire, moi j'ai appelé ça un ministère itinérant. Parce que, Tite, c'est qui? Tite, c'est un pasteur, un responsable. Et l'apôtre Paul écrit à Tite, il dit, je t'envoie, Tichique, quand il est arrivé là-bas, toi tu viens vers moi. Il fait un échange. Donc ça veut dire que Tichique va remplacer Tite dans le ministère pastoral qu'il... On peut supposer cela, en tout cas, c'est pas dit clairement, mais on peut supposer cela, puisque... Et quand il va arriver là-bas à Crète. Donc on pourrait dire ici qu'il avait aussi ce ministère d'itinérant, je dis ça comme ça, hein. Il était capable donc de s'occuper d'une église, de conduire, de porter un enseignement, puisque l'apôtre Paul lui confie le remplacement de Tite, au moins momentanément. Donc ça, voilà, on va s'arrêter là l'aspect ministériel, on pourrait dire, de Tichique. Et je voudrais souligner rapidement, dans le temps qui nous reste, son caractère. On a vu son ministère, mais son caractère. Alors, est-ce que vous voyez des choses dans ce qu'on a souligné qui peut nous donner des indications sur son caractère? Si vous avez toujours votre papier. La fidélité. Ça, c'est une chose qui saute, hein. La fidélité dans le service. Parce qu'il est appelé le fidèle ministre ou fidèle serviteur de Christ. Alors, on a essayé entre les lignes de dresser un peu son ministère, mais là, il est clair, là, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes, c'est clair, il est un fidèle ministre de Christ. La fidélité, c'est ce que le Seigneur demande, n'est-ce pas? Et la fidélité, c'est mieux que la capacité, que les capacités. Nous aimons insister sur les capacités à faire des choses, sur les compétences, sur les connaissances, sur l'habileté. Mais l'Écriture insiste beaucoup sur le caractère, et particulièrement des points de caractère comme la fidélité dans le service. La fidélité dans le service est plus importante que la compétence dans le service. Quelqu'un peut être compétent et pas fidèle, et le travail ne se fait pas. Et quelqu'un peut être moins compétent et fidèle, peut-être ça prendra plus de temps, mais le travail se fera parce qu'il est fidèle et qu'il est toujours là et qu'il accomplit toujours la tâche que le Seigneur lui confie. C'est pour ça que on cherche des hommes fidèles. L'Écriture cherche des hommes fidèles. C'est des gens qui disent « Donnez-moi des hommes fidèles et on va travailler. » L'Église a besoin d'hommes et de femmes fidèles, sur qui on peut compter, on sait qu'ils seront toujours là. Alors bien sûr, l'Écriture n'a rien contre la compétence, la connaissance, l'érudition ou toutes ces choses-là. Mais la fidélité vient renforcer, vient solidifier tous ces aspects que d'autres peuvent avoir sans être au Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, il dit « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. » Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé compétent. Non. Chacun soit trouvé dans l'érudition. Non. Chacun soit trouvé fidèle. C'est ce qu'on demande. Dieu demande à chacun de nous la fidélité. Et Tichique était cet homme fidèle. Et cette fidélité de Tichik, comment elle s'est montrée? Elle s'est montrée dans le fait qu'il a été fidèle, quel que soit le service qu'on lui a confié. Quels sont les services, d'après ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'il pouvait être capable de faire? Informer? Simplement porter une lettre? Paul dit, j'ai besoin qu'on aille là-bas, qu'on aille faire 300 km pour apporter une lettre à l'église. Je viens de terminer. Je dis, comment? Ok, on vient de terminer d'écrire. Il faut l'emmener à l'église d'Éphèse. Qui c'est qui veut prendre cela en charge? Qui c'est qui lève la main? Tichik. D'accord? Alors, il n'était pas là en train de dire, oh, mais c'est fatigant, moi, j'ai pas des bonnes baskets, j'ai mal au genou, ou j'ai ceci, ou j'ai cela, et puis il va pleuvoir. Moi, tous les types d'excuses que nous pouvons aujourd'hui trouver, alors que nous avons des automobiles. D'accord? Lui, il dit, Paul, j'y vais. Et Paul envoie Tichik. Après, il revient, il donne des nouvelles. C'est tout. C'est pas grandiose comme ministère, quand même. On peut pas dire, hein. Le facteur, il va amener ça là, il va se fatiguer, il va revenir, etc. Mais il le fait. Après, Paul dit, voilà, bon, il faut quelqu'un qui remplace Tite, parce que j'ai besoin que Tite soit ici. Là, il faut œuvrer dans la prédication ou bien l'enseignement dans l'église. Tichik peut le faire, l'apôtre Paul l'envoie, il y va aussi. Il est fidèle aussi dans cela. Donc, quelle que soit la taille, l'étendue, l'envergure du ministère, il est fidèle pour l'accomplir. Petite tâche aux grandes tâches. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Il y a des gens qui disent, donnez-moi de grandes choses. Et quand on demande, bon, tu veux faire ça? Non, ça, c'est pas assez grand pour moi. Ils veulent toujours de grandes choses. D'accord. Mais on reconnaît ceux qui seront fidèles dans les grandes choses par leur fidélité dans les petites choses. Vous avez dit une fois, il y avait quelqu'un qui m'a dit, moi, j'aimerais faire des études, arriver vraiment, faire ingénieur, entrer dans une grande boîte, et puis, je prends tout ça, tous ces diplômes, et puis, je jette ça sur la table, et puis, je vais servir le Seigneur. Tout ça, c'est rien. Il dit, ben, je lui ai dit, mais, fais déjà avec le peu que tu as. Parce que si tu peux pas donner le peu que tu as au Seigneur, tu pourras pas donner plus. D'accord? Donc c'est pas la peine de demander au Seigneur des millions pour pouvoir donner plus à l'église. Si nous avons des centimes, commençons par donner avec les centimes que nous avons. Et nous pourrons donner quand nous aurons des millions, si un jour ça arrive. D'accord? Mais, ne pensons pas que nous allons donner plus si nous avons plus, si nous sommes pas capables de donner avec, ce que nous avons. La bonne volonté, quand elle existe, est fonction de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12. D'accord? C'est un verset qu'il faut retenir. D'accord? Donc, on est fidèle avec ce que l'on a. Et c'est ce que montre ici Tichy. Deuxième trait de caractère, je pourrais dire ici la soumission. Timothée a envoyé, 2 Timothée 4, verset 12, on a vu qu'il a dit, j'ai envoyé Tichy à Éphèse. Il n'a pas dit Tichik est parti à Éphèse. Parce qu'il voulait partir à Éphèse. Il a dit, j'ai envoyé Tichik à Éphèse. Autrement dit, c'est Paul qui a demandé à Tichik de partir à Éphèse et Tichik s'est soumis, il est parti à Éphèse. D'accord? Et puis il dit la même chose ailleurs. Donc on voit un serviteur qui est soumis à la direction de Paul. Hein, il dit pas, tu n'as pas le droit de me, je suis assez grand pour savoir où je dois aller, moi. Hein. Non. Il s'est soumis à la direction de Paul. C'était un serviteur aussi, un autre trait de caractère, donc soumission, on a vu fidélité, mais il était fiable aussi. Il était digne de confiance. Parce qu'à mon avis, on ne confie pas quelque chose aussi précieux qu'une lettre, pour des églises, à quelqu'un qui n'est pas fiable, et qui n'est pas digne de confiance. Et qui va partir, on ne sait même pas s'il va aller vraiment là où on l'a envoyé. Hein? Il va aller ailleurs. Ça arrive, des gens qui font ça, hein. Nous envoient quelque part et puis ils sont jamais arrivés. Entre temps, ils ont pris des chemins de travers, hein. Eh bien, Tichik était un homme fiable. D'accord? On lui confie quelque chose et Paul savait que ça allait arriver comme il faut. Paul le rend porteur de ses propres nouvelles à lui. Il sait que ça va pas être déformé. Il va pas rajouter. Il y a des gens qui rajoutent des histoires sur des choses, hein. Il va pas faire ça. Il va raconter les choses telles qu'elles sont. et ça va être un encouragement pour les autres. Mais aussi, quelque chose qui n'est pas évident, dans Acte 20, Paul est en train de remonter à Jérusalem, et il semble qu'il ramène la collecte aussi, avec lui, qui avait été faite pour l'église de Jérusalem, ici. Et les gens qui avaient avec lui, pour transporter cela, parce qu'il ne voulait pas le faire tout seul, il dit, hein, il a pris des gens avec lui, ce sont des gens qui étaient dignes de confiance. Et il semble que quand Acte 20, verset 1 à 4 parle de cette équipe, Tichic faisait aussi partie de cette équipe qui transportait de l'argent. Et à l'époque, il fallait des gens fiables pour transporter de l'argent. Donc Tichic était quelqu'un sur qui Paul pouvait compter, sur qui l'église d'Éphèse, l'église de Colosse, pouvait compter, parce qu'il était fiable. Il était fiable. On a besoin de chrétiens qui soient fiables. Un chrétien dans l'ombre, mais un chrétien fiable, sur qui on peut compter. Et puis, dernier trait de caractère que je vais souligner aussi, dans Colossiens 4, verset 7, regardez le verset, il dit « Tichic, le bien-aimé frère et fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. » Il était le compagnon de service de Paul. Et le sens de compagnon, c'est celui d'être ouvrier avec. Donc on pourrait dire ici qu'il était, pas comment il faudrait appeler ça, hein, co-ouvrier, voilà, on pourrait dire ça. J'avais pensé sociabilité, mais ça va pas trop, ou collaborateur, il est capable de travailler en équipe. C'est ça que je voulais dire. Hein. Coéquipier, tu sais que tu as dit aussi coéquipier, voilà. Hein. Coéquipier avec Paul. Et donc, le terme vraiment désigne ici, quand il dit compagnon, c'est une association dans le travail missionnaire, mais aussi dans les luttes et les conflits que ce travail missionnaire génère. C'est pas quelqu'un, en fait, qui va s'associer quand tout va bien, et puis quand tout va mal, il part. Un peu comme dans le voyage du pèlerin, au début, c'était, comment il s'appelait, Facile, je crois, hein, qui commence, et puis quand ils commencent, ils arrivent au bourbier du découragement. Vous vous rappelez de cette histoire, hein, de John Bunyan, eh bien, il l'abandonne, parce que c'est trop difficile. Et l'apôtre Paul parle de personnes qui l'ont abandonné. Il dit dans 2 Timothée 4:16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Que cela ne leur soit pas imputé. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à sentir la chaleur de la difficulté, à Rome, Néron, etc., qu'il fallait comparaître devant ces politiques, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et ils ont abandonné l'apôtre Paul. D'accord. Eh bien, celui qui est le compagnon, celui qui œuvre avec et qui s'associe, même quand la chose est difficile. Il n'abandonne pas le navire quand tout va mal. Et c'est vrai que c'est facile d'être quelque part où tout va bien. C'est facile d'être dans une église qui est remplie de monde, parfois, hein, où je vais être à l'aise parce que bon, je vais même pas être connu, mais c'est bien, ça marche, on n'a pas besoin de moi, etc. Et puis, si jamais il se passe quelque chose, le groupe diminue, eh bien, on a des gens aussi qui disent, ben moi aussi, bon, la difficulté est là, moi je reste pas, je vais chercher aussi autre chose. Mais il y a des gens qui sont des compagnons qui vont être sur le bateau même quand il y a de la difficulté. Et ils vont œuvrer. Bien sûr, à condition que ça reste toujours dans la volonté du Seigneur, mais ils vont s'associer même quand les choses sont difficiles. Et c'est toujours facile aussi, là, ici, de travailler seul. Hein. Il y a des gens qui aiment travailler seul, disposer de nos moyens tels que l'on veut, utiliser sa propre méthode. Mais quand il s'agit de s'associer, parfois avec un autre, on est obligé de le consulter. C'est comme quand on est marié, hein. Hein, il faut consulter, hein. Sinon, ça marche pas. Hein, on peut pas prendre des décisions tout seul. Avant, on prend des décisions tout seul, on met deux chaussettes de couleurs différentes, c'est pas un problème, etc. Mais quand on est marié, là, donc c'est quoi ce truc? Il y a des choses qu'on fera pas, hein. Plein de choses qu'on pourra plus faire. On parlait avec une jeune fille célibataire ce week-end, hein. Et elle fait plein de choses, mais alors c'était extraordinaire. Elle a posé elle-même son water, elle a fait tout, les WC, les carrelages et tout. Je dis mais c'est pas possible, tu fais ça. Et puis elle est engagée dans plein de choses. Et après on discutait de mariage et elle-même elle a dit mais je sais que si je me marie je pourrais pas faire tout ça, toutes ces choses là. Il y a plein de choses que je vais devoir abandonner. Il dit exactement. Pourquoi? Parce que bon on est associé, on est avec quelqu'un, on peut pas continuer à faire ce qu'on a envie de faire. Eh bien, quand on est dans le ministère ici, c'est pareil. On est obligé de consulter, d'entreprendre, de se soumettre. Soumettre son opinion à l'opinion de l'autre. Et puis peut-être accepter l'opinion de l'autre parce qu'elle est meilleure que la nôtre, en fait. Hein? Et ça, c'est des choses qui sont difficiles. Et Tichic était ce type de personne qui savait s'associer, se soumettre. Quand Paul lui disait « va là-bas », il allait là-bas. Quand Paul disait « viens », il revenait. Il travaillait avec. Il travaillait pas contre. Il travaillait avec. Et c'est dans ces situations-là qu'on connaît le vrai, qu'on voit le vrai caractère se manifester. Donc, chers frères et sœurs, oui, un ouvrier de l'ombre, mais un ouvrier efficace, hein, dans le travail du Seigneur. Et ça peut nous encourager, hein. On n'a pas besoin d'être dans la lumière pour travailler. Et c'est pas parce qu'on est dans la lumière qu'on travaille mieux. Ce que Dieu demande, c'est d'être fidèle dans ce que nous faisons. Peut-être que le travail que nous faisons, personne ne le verra pas, ne le verra. Accueillir quelqu'un chez soi, héberger quelqu'un, un serviteur de passage, c'est une manière de travailler dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit aussi, hein, ceux qui exercent l'hospitalité. Et Jésus dit même ceci, il dit, celui qui reçoit, Matthieu 10, verset 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. Vous voyez ça? Alors le prophète, il va prêcher, parler, il va faire plein de choses. Peut-être qu'il aura un ministère fructueux. Il aura une récompense de prophète. Mais celui qui l'aura juste hébergé, parce que c'est un prophète de Dieu, et que je veux recevoir l'homme de Dieu, je veux l'aider dans son ministère. Juste ça, je ne peux pas faire grand-chose, mais ça, je peux le faire. Et je le fais fidèlement. Jésus dit, il reçoit une récompense de prophète. C'est fort ça quand même. Et donc, il ne faut pas négliger les petites tâches que l'on peut faire. Il ne faut pas chercher à être prophète. Il ne faut pas chercher à être forcément dans la lumière. Mais il faut être là où le Seigneur nous a placés. Et si c'est dans l'ombre, on reste dans l'ombre. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est qu'on fasse un travail indispensable qui doit être fait dans l'ombre. Et qu'on le fasse avec fidélité. Si c'est juste accueillir les gens chez nous, c'est tout ce qu'on peut faire, eh bien faisons-le avec zèle et avec sincérité. Et Jésus ajoute aussi, celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Que le Seigneur nous encourage. C'est pour nous que les ouvriers sont à la lumière ou dans l'ombre. Pour Dieu, ils sont pas à la lumière ou dans l'ombre. Il les voit tous pareillement. Ils sont à son service. Il les emploie différemment. Donc, cette catégorie ombre et lumière, c'est nous qui la disons parce que bon, il y a visible et puis moins visible. Mais pour Dieu, tous sont visibles. Et il n'est pas injuste pour oublier le travail que vous faites, nous dit l'Épître aux Hébreux. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité. Nous te demandons que tu nous aides à considérer ces personnes qui t'ont servi aussi et que l'on voyant dans ta parole, qui peut-être dont on n'a pas entendu ce qu'elles ont pu dire, mais dont on voit quand même la vie, l'obéissance, la fidélité, la soumission, la fiabilité. Et nous te prions, Seigneur, pour que tu nous aides à être fidèles là où tu nous utilise. Ce que tu demandes de nous, c'est que nous soyons des serviteurs fidèles. Aide-nous, agis dans nos cœurs pour que nous œuvrions pour toi, pour la gloire de ton nom et pour la croissance de ton Église. En ton nom, nous te prions ces choses. Amen.